Notre invité ce matin est immunologue, co-auteur du livre Un médecin au front paru au Seuil l'an dernier, mais aussi président du Comité consultatif national d'éthique qui a publié un avis important, l'avis 136 sur lequel s'est appuyé le gouvernement pour son projet de loi fin de vie, une loi qui nous parle à toutes et à tous, présentée mercredi dernier en Conseil des ministres. Elle doit arriver le 27 mai devant les députés. Bonjour Jean-François Delfraissy.
Bonjour.
Bonjour.
Pour résumer, le projet prévoit d'autoriser les patients à s'administrer une substance létale ou demander à un proche de le faire s'il répond à quatre critères, être majeur, avoir un discernement plein et entier, souffrir d'une maladie incurable et avoir des souffrances qu'on ne peut soulager. Pourquoi vous pensez-vous, Jean-François Delfraissy, que ce projet de loi est un bon projet, ou plutôt pour vous citer, qu'il est sur une ligne de crête intéressante ?
Moi, je n'ai pas commenté un projet de loi du gouvernement. Je constate que ce projet de loi s'approche assez des propositions qui avaient été faites par le Comité consultatif national d'éthique. C'est un sujet très difficile, intime, humain, vous l'avez signalé, je pense que les Français en sont intimement persuadés, je l'ai vu lors des très nombreux débats qui ont eu lieu en France depuis un an. Et donc, c'est une ligne de crête entre ce qui est l'autonomie, notre liberté individuelle, qui est une grande valeur éthique, et puis la solidarité, qui est s'occuper des plus fragiles, et on est en situation de fragilité lorsqu'on est en fin de vie.
C'est parce qu'il allie en fait cette idée d'aider à mourir ceux qui le souhaitent et qui ne voient pas d'autre issue, et de développer les soins palliatifs pour les personnes qui veulent continuer à vivre.
Oui, la première partie de ce projet de loi est sur les soins palliatifs et les soins d'accompagnement. C'est un des points qu'avait réclamé le CCNE, qu'on fasse un effort majeur qui est à la fois d'ordre financier, mais pas que. 1,2 milliard d'euros sur 10 ans, ce qui dans le contexte financier actuel est bien.
Suffisant.
Et c'est jamais suffisant. Mais l'enjeu n'est pas là. L'enjeu n'est pas que financier. C'est remettre finalement au cœur de notre communauté médicale, cette communauté des soins palliatifs qui fait un boulot extraordinaire, mais qu'on a besoin de rapprocher. On a besoin de montrer que les 80% de décès qui surviennent en France dans un contexte médicalisés, doivent être plus accompagnés, doivent s'ouvrir. On doit ouvrir, par exemple, des unités mobiles de soins palliatifs pour aller prendre là où surviennent la majorité des décès, c'est-à-dire dans les EHPAD en particulier.
Vous avez déclaré récemment que la culture du soin palliatif n'était pas encore suffisamment entrée dans les unités médicales en France. Qu'est-ce que ça signifierait de faire entrer cette culture du soin palliatif dans le soin tout court ? Et que dire, par exemple, aux malades qui sont atteints, par exemple, de la maladie de Charcot ? La souffrance, elle peut être insupportable bien avant même que le pronostic vital soit engagé. Ça, c'est impossible de légiférer là-dessus ?
De toute façon, c'est très difficile de légiférer. Moi, je suis un vieux médecin.
Très difficile ou impossible ?
C'est difficile, mais de toute façon, c'est nécessaire. Moi, j'ai connu la médecine sans loi autour de la fin de vie, en particulier dans la période SIDA, qui était une période extrêmement lourde pour les médecins et surtout pour les patients. Et où fondamentalement, c'est le droit des patients qui est là. La maladie n'appartient pas aux médecins, elle appartient aux patients. Alors une fois qu'on est persuadé de ça, l'histoire se construit autour du patient.
Mais l'expression est étrange, que la maladie appartienne, comme si c'était quelque chose qu'on pouvait posséder.
Oui, c'est quelque chose qu'on peut posséder. La preuve, c'est que ma génération de médecins a cru posséder la médecine dans une certaine mesure, avec l'innovation, toujours plus, et on a fait des choses merveilleuses et extraordinaires. Et à la fin quand même, dans ces moments très complexes de la fin de vie où on touche là des enjeux d'humanité fondamentalement, on revient bien dans cette relation patient-malade. Alors, pour répondre rapidement à votre question, oui, on a besoin de lois parce que la jeune génération des médecins maintenant dit, vous nous avez mis une loi, une première loi, la loi Claeys-Leonetti, nous ne bougerons que si nous sommes encadrés par la loi.
Justement, les soignants, il y en a certains quand même qui sont assez opposés à cette loi. Je pense à ceux qui travaillent dans les services de soins palliatifs, qui sont en majorité contre, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a cette philosophie, il y en a qui estiment qu'un soignant s'est fait uniquement pour soigner. Il y en a d'autres qui estiment que la notion de condamner, d'être condamné à moyen terme, c'est-à-dire entre 6 et 12 mois, c'est très difficile à évaluer. Comment est-ce qu'on peut les convaincre, ces soignants, de mettre en application cette loi? Parce qu'ils vont être un élément fondamental de sa mise en œuvre.
Alors, on rappelle que sur les 600 000 décès en France, 60 000 personnes
par an, sont
pris en charge dans les soins palliatifs. C'est-à-dire que la majorité des décès, et heureusement dans une certaine mesure, sont hors les soins palliatifs. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que, oui, la communauté des soins palliatifs est en retrait, environ 60%. Ce n'est pas vrai sur l'ensemble de la communauté médicale. Les réanimateurs, les oncologues, les cardiologues, les urgentistes, c'est-à-dire des personnes, les gériatres, les personnes qui voient la mort tous les jours, sont beaucoup plus nuancés et ils sont pratiquement à 60% pour avoir une évolution. On a de très bonnes enquêtes de la part des réanimateurs qui le montrent. Donc vous voyez que cette communauté médicale, et c'est normal, elle est, je veux dire, en attente de ce qu'il va y avoir dans la loi et de ce qui sera construit par les députés et les sénateurs.
Et comment on peut convaincre ceux qui restent?
Écoutez, ceux qui restent, moi, j'entends ce message très fort qui est dit, la médecine c'est fait pour soigner et pour accompagner, et non pas pour mettre fin à la vie. J'ai un autre message qui est, la médecine c'est fait pour accompagner son patient, y compris dans ses désirs les plus ultimes.
Alors justement, ça c'est une question qui est vertigineuse. Il y a un cas emblématique qui avait frappé les consciences, c'est le cas du cinéaste Jean-Luc Godard en Suisse. Il a eu recours au suicide assisté. Il n'était pas malade, il était simplement épuisé, a dit sa famille, c'était en 2022. C'est une question qui peut paraître naïve, mais jusqu'où l'État doit intervenir pour décider de notre propre fin ?
Alors, tout d'abord, c'est le cas de Jean-Luc Godard ne pourra pas se passer avec
en
la
France,
loi
oui.
qui est programmée. Qu'on soit bien clair, ce qui est programmé, c'est voilà une ouverture. Hein. Je crois que le président de la République a dit que ce n'était ni un droit, ni une liberté, mais une possibilité qui était offerte aux patients qui le souhaitaient.
Mais c'est aux sages que je m'adresse.
Rappelons que ce n'est pas seulement ce n'est qu'une possibilité, ce n'est en rien une obligation. Ce que j'entends parfois, vous allez obliger à... Non, pas du tout. C'est une simple possibilité. Et alors, le deuxième point, c'est que sur une loi de ce type, eh bien, je pense qu'on n'ira pas, on ira sur certains points. Il faudra affiner, entre guillemets, lors de la discussion parlementaire. Et que, par exemple, une fois de plus, le cas Godard ne pourrait pas survenir en France, il va être, pour les personnes qui ont un pronostic réservé à moyen terme, avec toute la difficulté du terme moyen terme. Enfin, je vous rappelle que dans la loi Castellanetti, on parlait de court terme et personne ne s'est posé la question
de savoir ce que
voulait dire court terme.
Et
le moyen terme, bien sûr, c'est très difficile pour un médecin, mais ça dit bien ce que ça veut dire.
Jean-François Delfrécy, on n'est pas là pour parler politique, mais cette question de la fin de vie, elle divise même au sein des partis. Est-ce que vous avez envie, vous, en tant que sage, de donner un avis aux députés, en tout cas de donner un mot d'ordre avant qu'ils votent ?
Moi, je sors de tout cet épisode, à la fois sur le fond, sur la discussion autour de la fin de vie, et sur un deuxième point, c'est à mes yeux... Pour l'instant, en tout cas, une réussite de la démocratie en santé.
La démocratie en santé, c'est passionnant parce qu'il y a eu effectivement un avis émis par une convention citoyenne et puis il y a eu le travail de votre comité. C'est un exemple, un modèle.
Oui, parce que dans une démocratie où on voit bien qu'on est fragilisé en France sur différents points, sur des grands sujets difficiles, pouvoir débattre et faire débattre le citoyen, c'est le triangle où vous avez à la fois l'expertise, la vision du citoyen, qui est souvent le bon sens, et puis la décision politique. Et sur des sujets complexes, la fin de vie en est un, on peut imaginer en médecine qu'il y en ait d'autres, ou qu'est-ce qu'on souhaite sur l'accès à l'innovation des molécules les plus coûteuses, par exemple, hein, ou sur des enjeux qui dépasseraient la médecine, sur un sujet peut-être comme la migration, j'en sais rien. Eh bien, cette participation citoyenne à des débats complexes permet d'éclairer ensuite le vrai débat démocratique, et ce qu'est la démocratie élective, qui est notre vraie démocratie.
Ouais. Un dernier mot, Jean-François Delfrécy, je change complètement de sujet. Vous avez vu sans doute le témoignage de l'infectiologue Karine Lacombe dans Paris Match cette semaine, qui accuse de harcèlement sexuel et sexiste l'urgentiste Patrick Peloux. Ces violences sexuelles et sexistes au sein de l'hôpital, au sein du monde de la santé, c'est systémique ou ce sont des faits isolés ?
Écoutez, non, je pense que le monde de la santé n'est pas à part les autres mondes. Et que probablement il y a ce type de manifestation qui existe. Bon, je pense qu'il y a eu des changements. Ma génération a changé. J'ai changé, non pas sur les agressions sexuelles, mais sur la vision qu'on pouvait avoir autour de ce problème. La médecine est un lieu de travail qui est un lieu de travail comme les autres.
L'immunologue Jean-François Delfrécy, président du Comité consultatif national d'éthique, merci beaucoup.
Merci et longue vie
de nous avoir répondu sur Inter. Je rappelle le titre de votre livre, Un médecin au front, aux éditions du Seuil, et vous y parlez du sida, mais aussi du Covid et de la fin de vie. Le journal à suivre.